Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Ah, il y a de la nouveauté dans notre liturgie d'aujourd'hui, de l'inédit, de l'inouï. Merci déjà aux musiciens qui nous font partager et qui convient bien, c'est vrai, à ce chant joyeux qui chante la joie de la nativité, la joie de la Sainte Famille que nous fêtons aujourd'hui. Donc bienvenue à nos amis scouts et guides de France qui animent cette célébration de leur chant. Bienvenue aussi spécialement aux familles, à toutes les familles qui sont là. Les familles qui sont dans la joie et les familles qui sont dans l'épreuve, car la Sainte Famille a connu tout cela. C'est pourquoi elle est aussi un modèle pour toutes les familles. Nous allons la regarder un petit peu aujourd'hui, comment elle peut nous rejoindre aussi dans nos situations de joie et d'épreuve. Eh bien, préparons-nous à célébrer ce mystère, cette rencontre de l'Eucharistie, car c'est bien cela, Dieu vient à notre rencontre en chaque Eucharistie. Préparons-nous à célébrer, à accueillir celui qui vient à nous en reconnaissant combien nous avons besoin de son salut, de son pardon.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, » mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estimant qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur.
Grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à 7 heures même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le choix des deux premières lectures de ce dimanche de la Sainte Famille peut nous surprendre. On attendait, j'attendais en tout cas, une épître de saint Paul. Il y en a plusieurs qui parlent des relations familiales et qui nous donnent des conseils très pratiques, voilà, pour que ces relations soient belles et selon Dieu. Eh bien non. Alors comment ce couple âgé, éprouvé par la vie, par la stérilité surtout. Comment ce couple d'Abraham et de Sarah, vivant d'abord en Mésopotamie, quelques 1800 ans avant le Christ, puis une vie largement nomade, a-t-il quelque chose à dire au couple et aux familles d'aujourd'hui? Alors la lettre aux Hébreux nous donne bien sûr la réponse, ponctuée qu'elle est de ce refrain « Grâce à la foi, grâce à la foi, grâce à la foi ». Le message qu'Abraham et Sarah ont à nous transmettre aujourd'hui est en effet un témoignage exemplaire de foi en Dieu. De foi en Dieu, oui, parce que la foi n'est pas un acte intellectuel abstrait. C'est une confiance concrète en quelqu'un de vivant, dans le vivant. La foi d'Abraham est tellement emblématique que la liturgie de la messe dit d'Abraham qu'il est notre Père dans la foi. Autrement dit, et qu'il nous précède sur ce chemin de la foi, il a été, bien, on peut dire le chef de file, oui, le chef de file de ce chemin de foi que nous suivons aujourd'hui encore, foi en Dieu vivant et en Dieu Trinité. Il nous précède sur ce chemin de la foi et il nous y éduque, comme doit faire un père. Il nous éduque à la foi par son exemple, comme Marie nous éduquera bien sûr aussi par la grandeur, la pureté, la force de sa foi. Dans la lettre aux Hébreux, nous pouvons relever trois éléments essentiels à la foi dans ce passage que nous avons entendu. Grâce à la foi, nous est-il dit, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit. La foi, encore une fois, ce n'est pas d'abord adhérer à des idées, mais vivre une relation authentique avec Dieu. Car Saint Jacques nous apprend dans sa lettre, Nouveau Testament, que la foi peut être morte ou vivante. Montre-moi ta foi qui n'agit pas, dit Saint Jacques. Ta foi, tu crois avoir la foi, mais si elle ne produit pas des œuvres cohérentes avec ce que tu proclames, ta foi est morte. Elle est vivante, la foi, si elle agit, si elle donne des fruits, si elle agit, nous dit Saint Paul, par la charité, c'est-à-dire cet amour et de Dieu et du prochain par l'amour que nous recevons de Dieu. Abraham obéit. Voilà, c'est la preuve d'une foi vivante. Il obéit, il partit. Et j'aime à vous partager ce commentaire du texte de la Genèse qui est évoqué par la lettre aux Hébreux. Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Nous connaissons bien ce texte que nous traduisons qui est traduit par « part ». Et le commentaire que je lisais nous apprend que là où nous lisons en français « part », le texte hébreu, lui, dit « va pour toi ». Intéressant. Autrement dit, Abraham comprend que l'ordre de Dieu est dans son intérêt. « Va pour toi, va pour ton bien ». Ce qui veut dire que croire, c'est être convaincu que Dieu ne peut que vouloir et œuvrer à notre bien et à notre bonheur. Alors peut-être ce serait opportun de se poser la question, maintenant, aujourd'hui, est-ce que je crois que Dieu ne veut et n'œuvre que pour mon bien? Pas sûr. Tant de fois on entend traîner ici et là, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ceci et cela? Comme si le bon Dieu avait du temps à perdre, à envoyer des tuiles aux gens. Mais oui, mais très récemment encore, j'ai entendu ça. Une personne qui dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir tant de tuiles dans ma vie? C'est vrai qu'il y a des vies terriblement éprouvées, et ça nous pose question. C'est vrai que ça éprouve notre foi, c'est vrai. Mais dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'envoie tout ça, c'est manquer de foi en la bonté de Dieu. Est-ce qu'on croit en la bonté de Dieu, oui ou non? Non, Dieu ne veut et ne peut que le bien de chacun de nous. Où est notre foi en cela? La lettre aux Hébreux nous dit encore qu'Abraham partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Autrement dit, croire, c'est reconnaître que Dieu donne sans cesse. Dieu ne sait que donner. Il donne tout, puisqu'il se donne lui-même. Il ne retient rien pour lui. Il donne tout. Benoît XVI disait quelque chose comme cela. Dieu ne prend rien. Il donne tout. Est-ce qu'on y croit? Là aussi, peut-être, ce serait bon de faire le point dans notre cœur en vérité. Est-ce que je crois que Dieu est là pour me prendre quelque chose? Ou pour me donner? Et s'il m'invite en liberté, parce que Dieu respecte toujours notre liberté, quel mystère, enfin c'est le mystère de l'amour. L'amour respecte la liberté de l'autre. Si Dieu m'invite à perdre, à lâcher, c'est pour me donner plus, mieux. Est-ce que j'y crois? Oui, autrement dit, croire, c'est reconnaître que Dieu donne sans cesse et que tout ce que nous possédons, tout ce que nous vivons de beau, de juste, de vrai, est cadeau de Dieu. Est-ce que j'y pense assez? Est-ce que je sais le remercier? C'est vrai que spontanément nous nous crispons sur ce que nous trouvons qui va de travers, qui nous agresse, qui nous fait mal, et nous oublions que nous sommes enveloppés quand même plus fondamentalement par la tendresse de Dieu, par ses bontés, par ses dons. Et puis la lettre aux Hébreux ajoute « Abraham partit sans savoir où il allait ». Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de faire cette expérience, peut-être certains le font, mais avec nos GPS et toute notre technique, on veut des sécurités partout. Et pourtant la foi, c'est bien ça. C'est accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout savoir d'avance, et même d'être déconcerté par ce que Dieu permet. Je dis bien permet. Et qui ébranle parfois notre foi, c'est vrai. Abraham partit sans savoir où il allait. Et cela nous dit encore que croire, c'est aussi donc accepter de faire confiance sans tout savoir. Accepter que la route ne soit pas celle que nous avions prévue ou souhaitée. Je pense, oui, à ces migrants qui doivent partir aussi de leur pays. Et que d'actes de lâcher prise, d'abandon, cela demande aussi parfois. Oui. Écrite pour des chrétiens persécutés, la lettre aux Hébreux veut les encourager à tenir bon. Elle leur montre que Abraham a pu lui aussi tenir bon dans toutes les épreuves qu'il a connues grâce à sa foi. Et puis, la liturgie de ce jour nous met devant les yeux, bien sûr, la Sainte Famille, ce couple. Il nous montre la foi en acte vivante de Marie et de Joseph, mais aussi la foi vivante de Siméon et Anne. Et je veux vous partager quelques réflexions du pape François sur cette scène évangélique que nous avons entendue tout à l'heure. Le message, nous dit-il, qui provient de la Sainte Famille est tout d'abord un message de foi, là encore. Dans la vie familiale de Marie et Joseph, Dieu est vraiment au centre. Il l'est en la personne de Jésus, bien sûr. C'est pourquoi la famille de Nazareth est sainte. Pourquoi? Parce qu'elle est centrée sur Jésus. Est-ce que nos familles sont toujours centrées sur Jésus? Et lorsque Dieu est vraiment au centre de la vie des personnes, eh bien, il suscite la rencontre, la communion, l'unité entre des personnes par ailleurs si différentes. C'est bien ce que nous vivons dans l'Église, si nous nous regardons les uns les autres. Comme disait saint Paul, regardez qui vous êtes. Eh bien, que de différences qui pourraient nous séparer si nous avions un regard purement humain sur les personnes. Mais l'Église, corps du Christ, mystère justement de réconciliation, d'unité, fait se rencontrer, communier, unir et aimer des personnes profondément différentes par bien des aspects. Voilà le miracle de l'amour de Dieu quand Dieu est au centre de la vie des personnes. C'est ce que révèle encore le pape dans la scène de la présentation de Jésus au temple qu'il médite, je cite, « C'est un moment simple, mais riche de prophéties. La rencontre entre deux jeunes époux pleins de joie et de foi pour les grâces du Seigneur et deux personnes âgées, elles aussi pleines de joie et de foi pour l'action de l'Esprit. Qui les fait se rencontrer ? Jésus. Jésus les fait se rencontrer, les jeunes et les personnes âgées. Jésus est celui qui rapproche les générations. » Oui, c'est beau ça, cette idée que si Jésus est vraiment, on le laisse vivre et saisir notre vie, eh bien voilà, il nous rapproche les uns des autres. Et il rapproche les générations. Il est la source de cet amour qui unit les familles et les personnes, vainqueur de toute méfiance, de tout isolement, de tout éloignement. Cela nous fait penser, dit le pape, également aux grands-parents, combien leur rôle dans la famille et dans la société est précieux. Merci aux grands-parents qui sont ici. Voilà, le pape a confiance en vous et vous mobilise. Et puis, source de rencontre et de communion, la foi vivante est aussi source de courage et de force. D'ailleurs, vous avez entendu comme moi des personnes vous dire « Je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas la foi ». C'est vrai que pour traverser, pour tenir bon dans les épreuves de la vie, mais la foi est un cadeau immense. Ça ne fait pas tout. Cela n'évite pas parfois une dépression, bien sûr. Mais enfin, comment font ceux qui n'ont pas la foi ? Pas s'étonner qu'il y ait tant de drames. Pour ne parler que des suicides dans notre société qui les génère par son manque de sens, par son manque de spirituel. La foi vivante est aussi source de courage et de force. Quand les parents et les enfants respirent ensemble ce climat de foi, j'aime bien cette expression, respirent ensemble ce climat de foi, Dieu n'est pas seulement là à la messe du dimanche, c'est bien que vous soyez là, mais quand il est présent chaque jour, quand la famille se rassemble pour la prière familiale, et quand aussi les questions de foi sont évoquées en famille, quand on en parle, quand on parle de l'Évangile, quand on lit la vie des saints en famille et tant d'autres rendez-vous possibles. Oui, quand les parents et les enfants respirent ensemble ce climat de foi, ajoute le pape, ils possèdent une énergie qui leur permet d'affronter des épreuves même difficiles, comme le montre l'expérience de la Sainte Famille, par exemple lors de l'événement dramatique de la fuite en Égypte, une dure épreuve. Et le pape, donc, de nous encourager à offrir de la chaleur humaine dans ces situations familiales où, pour divers motifs, manque la paix, manque l'harmonie, manque le pardon. Il termine « Confions à Marie, reine et mère de la famille, toutes les familles du monde, afin qu'elles puissent vivre dans la foi, la concorde et dans l'aide réciproque. Amen. »